Cette semaine, Élise Gruau rencontre Philippe Hersant. Ce soir, vertige de la création.
Philippe Hersant, bonsoir.
Bonsoir.
Hier, nous avons évoqué votre petite enfance romaine et votre vocation précoce pour la musique, qui vous fit dire très tôt, vers l'âge de 6 ans, que vous vouliez être compositeur de musique et rien d'autre. Vous avez évoqué aussi ces études qui d'abord se déroulaient facilement dans la musique et puis pour arriver à l'entrée à l'âge adulte à une véritable traversée du désert dans votre désir de création. Alors ce soir, j'aimerais que nous allions plus loin dans la mise en œuvre de cette vocation et dans le chemin que vous avez parcouru pour devenir compositeur de musique libre aujourd'hui. Vous êtes entré au Conservatoire de musique de Paris vers l'âge de 20 ans. Vous avez quand même reçu un prix de composition.
Vous avez, non, là,
un prix d'écriture, plus. Pardon.
Alors, je suis rentré en classe d'harmonie juste après le bac. Je devais avoir 17 ans. Je sais pas, j'avais un an d'avance dans mes études.
Vous étudiez avec André Jolivet à l'époque?
Alors non, là, c'était chez Georges Hugon, professeur d'harmonie. Donc, j'ai eu un prix d'harmonie. Et donc, est arrivé mai 68. Et juste après mai 68, je me suis inscrit à la classe d'André Jolivet. Mais mai 68 avait eu plusieurs effets, notamment celui de supprimer le prix de composition. On trouvait que c'était idiot, etc. Donc pendant 2-3 ans, il n'y a pas eu de prix de composition. Donc j'ai quitté la classe de Jolivet assez rapidement, au bout de 2 ans, pour aller à la Casa Velázquez à Madrid. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance quand même dans ma vie. Parce que j'ai eu à la fois la Casa Velázquez et plus tard la Villa Médicis, qui sont un peu les équivalents. C'est Jolivet, un jour, qui m'a dit, écoutez, personne ne se présente à la Casa Velázquez cette année. Ils sont en mal de candidats. Est-ce que ça vous intéresse d'aller passer 2 ans à Madrid? J'ai dit oui. Il a fait une lettre de recommandation. Et avec cette seule lettre de recommandation, je suis parti à la Casa Velázquez à 22 ans.
Donc là, vous êtes pensionnaire pendant 2 ans d'une résidence d'artiste. Les conditions sont réunies pour pouvoir composer.
Et je ne fais pourtant... rien. Ou pratiquement rien. J'ai écrit une œuvre d'orchestre qui n'a jamais été jouée. Enfin, que j'écrivais un petit peu en dilettante, comme ça, entre deux voyages. J'ai beaucoup visité l'Espagne. J'ai beaucoup lu. J'ai pas perdu mon temps, hein, complètement. Mais alors, pour la composition, je me suis retrouvé brusquement devant le vide, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais écrire? Et puis, 22 ans, j'étais pas mûr. J'avais pas du tout fait le ménage dans ma tête. Je savais pas ce que je voulais faire. Je suis rentré de Madrid. Là, il y a eu une période vraiment très difficile, de déprime, je dirais. Je gagnais ma vie en donnant des cours. Je suis rentré à la radio. Là, ça commençait à aller un petit peu mieux. C'est-à-dire que je me réinvestissais dans la musique. Ce qui m'a sauvé, quand même, c'est de travailler à France Musique, je dois dire.
Vous entrez comme producteur à France Musique?
Oui. J'étais extraordinairement timide à l'époque. Et parler devant un micro est quelque chose qui me paralysait complètement. Mais avec l'audace que peuvent avoir les timides, j'ai été voir Charles Chêne, qui était le directeur de France Musique à l'époque, en lui proposant de faire des émissions, tout en me disant, pourvu qu'il dise non, parce que ça me flanquait la trouille. Mais il se trouve qu'en Espagne, j'avais acheté beaucoup de disques de musique ancienne espagnole. Il y avait une collection qui venait d'une collection de 15-20 disques à peu près, qui était Dispavox, et qui faisait entendre des musiques qui n'avaient jamais été enregistrées, des musiques du 13e, 14e, 15e siècle espagnol, qui est d'une richesse extraordinaire. J'avais été fasciné par ces musiques, et je me dis, là, il y a quand même, faut les faire découvrir, parce qu'elles n'étaient pas encore éditées en France. Donc, je vais voir Charles Chêne, que j'avais croisé quand j'étais au conservatoire, et qui me dit, oui, je vous donne une demi-heure tout le mois de juillet, cet été, tous les jours.
Formidable.
Donc, alors, heureusement, c'était pas en direct, c'était en différé. Voilà, je me suis lancé. J'ai pas dû bien dormir la nuit précédant les enregistrements. Mais voilà, ça s'est fait, je dirais pas contre mon... Si, d'une certaine façon, contre mon gré. C'est-à-dire, j'avais à la fois l'envie de le faire et puis un gros frein. Voilà, mais je l'ai quand même fait. Charles Chêne était très content de ses émissions, donc il m'a proposé de continuer. Et je suis rentré à France Musique comme ça, en 73.
Et quel type d'émission faisiez-vous sur France Musique?
Alors après, j'ai présenté des concerts, puis j'ai fait des programmations, puis Un peu plus tard, j'ai fait une émission qui s'appelait Le Matin des musiciens, qui était alors là plutôt une émission de fond, disons, parce que c'était 15 heures d'émission hebdomadaire, 5 fois 3 heures, tous les matins sur un sujet. Alors là, je sais pas, j'ai dû en faire une quarantaine. J'en ai fait surtout sur le quatuor à cordes, sur la 9e de Beethoven, sur je sais pas, les concertos pour piano de Mozart. Enfin, c'était.
Et cette période, alors rétrospectivement, comment elle vous paraît dans votre parcours ?
Ben, je sais que c'est une période très, très importante, bien que je n'ai pas écrit une seule note de musique, ou pratiquement, parce que c'est là que j'ai fait ma culture musicale, en fait. C'est pas au conservatoire. À part cette dame dont je parlais hier, qui me donnait des cours d'harmonie et qui m'a fait découvrir quand même pas mal de choses. J'ai tout appris grâce à France Musique, au concert que je devais présenter, à la discothèque de Radio France, dans laquelle il y a tout ce qui existe. Et alors, j'ai devenu une espèce de boulimique de musique, surtout que j'ai présenté vraiment des émissions sur tout, enfin, de la musique du Moyen-Âge jusqu'à la musique contemporaine, en passant par les musiques extra-européennes. Enfin, c'était vraiment extrêmement, extrêmement varié.
Est-ce que tout vous intéressait ?
Ça vaut des cours d'histoire de la musique. Ah oui, tout m'intéressait, oui. Mais ça, j'ai toujours eu ça, en fait. J'aime la musique sous toutes sortes de musiques. Il n'y a pas, évidemment, certaines plus que d'autres, mais j'ai toujours eu cette ouverture. Simplement, il y a des choses dont j'ignorais jusqu'à l'existence. J'ai un petit peu découvert la musique extra-européenne grâce à Jolivet, qui, un peu comme Messiaen, qui était l'autre professeur avec Tony Aubin à l'époque. Alors Jolivet était plus passionné par la musique japonaise, par la musique africaine, par les musiques populaires du Caucase, par exemple, des choses comme ça. Donc j'ai beaucoup écouté, alors que Messiaen, c'était plutôt la musique indienne, les rythmes hindous, etc.
Est-ce que vous étiez aussi attentif au jazz ?
Oui, également, oui. Bon, j'ai pas fait d'émission sur jazz parce qu'il y avait des gens beaucoup plus spécialisés que moi là-dessus, mais j'ai, oui, bien sûr, ça faisait partie tout à fait des musiques que j'écoutais et avec grand plaisir. Quand j'ai travaillé à France Musique, j'ai commencé en 73, et 2 ans après, il y a eu la redécouverte de l'univers baroque, qui donc là a été creusé dans la musique française, mais dans lointaine. Il y avait eu des approches aussi de redécouvrir Couperin, de redécouvrir Monteverdi avec Nadia Boulanger. Mais ça a vraiment commencé au milieu des années 70. Et là aussi, j'ai complètement suivi ce mouvement-là.
C'est récent, c'était une musique magnifique. La redécouverte de la musique baroque.
Mais oui, c'est récent. C'est sûr. Mais c'est là où cette dame qui me donnait des cours d'harmonie était pionnière, parce qu'elle... Elle avait un de ses étudiants qui a écrit un livre qui paraît-il toujours valable sur les secrets de la musique baroque, Antoine Geoffroy de Chaume. Et elle me disait, c'est un livre extraordinaire, formidable, mais bon, comme elle était un peu dépressive, elle disait, tout le monde s'en fout, tout le monde, de comment on doit jouer Rameau, de comment on doit jouer Couperin, ça n'intéresse personne. Bon, à l'époque où elle le disait, c'était vrai, mais quelques années plus tard, c'était faux. Puis il y a eu maintenant c'est un des répertoires les plus joués, finalement.
Et donc, pour vous...
Donc, cette boulimie, je veux dire, a été vraiment un petit peu tous azimuts. Presque trop, en fait, parce que on pourrait dire que j'ai rien approfondi vraiment.
Vous avez emmagasiné.
J'ai emmagasiné.
Et partagé.
J'ai accumulé les bagages. Alors, quelquefois, ça peut être encombrant, les bagages. J'écoute moins de musique maintenant, parce que j'écris beaucoup plus aussi. À l'époque, j'écrivais pas de musique, donc j'emmagasinais. Maintenant, je sens... quand je travaille, je peux difficilement écouter de la musique. Beaucoup, j'ai besoin de me concentrer sur ce que je fais.
Vous évoquiez précédemment mai 68 et l'esprit nouveau qui a soufflé sur le conservatoire, comme partout. Comment cet esprit de mai a-t-il modifié les choses au conservatoire, dans l'approche de la musique ?
Je pense qu'il y avait, ce qui a vraiment changé les choses, c'était une ouverture et c'est-à-dire ça commençait à circuler entre les élèves et les professeurs et les différentes classes.
C'était beaucoup plus cloisonné avant.
C'était extrêmement cloisonné. extrêmement cloisonné, c'est-à-dire qu'à moins de déjeuner à la cantine où on pouvait rencontrer d'autres élèves d'autres classes, on allait suivre son cours et puis on repartait. Donc moi je connaissais pas un seul étudiant de classe de violon, de classe de piano, je connaissais que les étudiants de la classe d'harmonie avec qui je suivais des cours. Et ce qui est triste quand même. Et c'est vrai que mai 68 a complètement chamboulé tout ça, parce que pendant 6 semaines, on s'est retrouvés dans les amphis, et puis même à faire de la musique ensemble. Et c'est des contacts qui sont restés après. Et puis, donc, quand je suis rentré chez Jolivet, on organisait des concerts aussi. Théoriquement, il n'y avait que les concerts organisés par le conservatoire, mais là, ça avait tout chamboulé. On avait peut-être un peu peur de nous. On s'est dit, on va leur laisser faire ce qu'ils veulent, sinon ils vont recommencer. Donc, on organisait des concerts. Je sais que mes œuvres ont été jouées dans des concerts organisés par les étudiants. Complètement. Alors, personne n'était payé, évidemment. On allait à la classe de flûte. On disait, tu peux pas venir jouer et répéter, etc. Et ça se faisait comme ça. Donc ça, c'était un côté, c'est un côté très sympathique, je trouve, parce que ça changeait tellement avec ce qui se passait avant que j'ai gardé un très bon souvenir de ça. Le côté plus discutable, c'est que c'était quand même très pas dictatorial, mais enfin il y avait c'est un petit peu des mots d'ordre, quoi. Il faut voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut écrire, voilà ce qu'il faut voilà la bonne voie, voilà le... Ça, c'est toujours beaucoup plus discutable.
Et racontez-nous un peu ce credo moderniste, justement, qui s'abattait sur les jeunes artistes ou les aspirants créateurs.
Alors, c'était... Bon, j'étais dans la classe de Jolivet, dans un petit cercle. C'était sûrement pas tout à fait pareil ailleurs. C'est curieusement, c'était pas du tout Boulez qui était la référence. C'était considéré comme trop rigoriste, trop théoricien, trop... C'était plutôt le happening qui était... Et Berio, par exemple, qui était... Fallait abandonner les règles, trouver autre chose, mais en tout cas ne pas se figer dans des règles préétablies. Donc casser l'orchestre, le mot d'ordre de départ c'était de tout casser et après on reconstruit.
Et donc adieu le contrepoint, adieu le
harmonie. Oui. Je sortais de la classe d'harmonie et de contrepoint et on me dit tout ça ne sert à rien, Ça laisse un peu rêveur, on se dit zut, alors à quoi ça a servi tout ce que j'ai appris. Mais enfin, c'était vraiment ça, ce que vous avez appris ne sert absolument à rien. Donc,
ça doit participer du vertige de la création quand même.
Oui, bien sûr, oui. Mais ça donnait des choses très bien. J'ai suivi ce mouvement en toute sincérité, c'était pas du tout... Mais moi, je pouvais pas... Je me suis rendu compte une dizaine d'années après que sans les bagages que j'ai accumulés, je pouvais pas écrire une note de musique. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé devant une page blanche et c'est pour ça que j'ai progressivement arrêté d'écrire de la musique. Parce que cette nouvelle voix, cette nouvelle grammaire, je ne savais même pas par où commencer. Donc je me sentais nul. Aussi, on se dit, bon, il y en a qui ont trouvé leur voie tout de suite, etc. Moi, j'ai déjà 22 ans et rien du tout.
Et comment ça se passait? Il y avait la France, mais à l'international, comment c'était?
Bon, je pense qu'il y a, dans tous les milieux d'avant-garde, c'était un petit peu la même chose. Bon, je n'ai pas été à Darmstadt, mais je suppose que c'était pareil. Il y avait des gens qui étaient ONI, c'était Britten et Shostakovich, surtout Shostakovich. Pour moi, Shostakovich était le comble de l'horreur, vraiment. C'était le musicien abominable.
Et pourquoi ?
Mais c'était le bruit qui circulait, qui faisait une musique académique horrible. Et Jolivet nous disait mais non, détrompez-vous les enfants, il y a des choses très belles de Shostakovich. On se disait mais quel vieux con. Et puis un jour, j'étais à un concert où on jouait, entre autres, le 8e quatuor de Shostakovich. Donc je m'attendais à ricaner et j'étais sidéré. J'ai trouvé ça magnifique. J'étais extrêmement ému, d'autant plus que je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à ricaner. Mais c'était des mots d'ordre comme ça. C'était... Quand on se moquait d'un mauvais compositeur, c'était toujours Shostakovich. Voilà, c'était le... Mais ça a disparu maintenant.
Vous n'écoutiez pas vraiment de musique, en fait, à l'époque?
À l'époque, non. Non, je travaillais pas encore à France Musique et j'avais, je devais avoir 50 disques chez moi. j'écoutais un peu la radio, mais non, je connaissais très mal la musique, un peu plus celle de pour piano, mais la musique d'orchestre, j'avais jamais entendu une note de Mahler, j'avais jamais entendu une note de Shostakovich, de tas de gens comme ça. J'étais pas du tout dans un milieu mélomane, donc j'allais un peu au concert, mais pas tant que ça.
Et donc dans toute cette formation, il manquait quand même complètement la culture et l'écoute.
Ben, il manquait la culture, c'est sûr. C'est sûr, et ça, c'est vraiment grâce à France Musique. Donc j'ai eu une très bonne idée d'aller voir Charles Chêne. Outre que ça m'a permis de gagner ma vie pendant longtemps.
Ouais, c'était le gagne-pain aussi.
Oui, c'était le gagne-pain, mais un gagne-pain agréable.
Et Philippe Hersant, vous avez beaucoup écrit pour instruments seuls. Vous avez beaucoup exploré les capacités des instruments. Est-ce que ça, c'est une passion qui... C'est une curiosité envers l'instrument qui vous est née aussi à cette époque-là?
J'ai vraiment une passion pour les instruments. Je ne suis pas du tout inspiré par l'électroacoustique. Je n'ai jamais vraiment voulu en faire. J'aime pas tellement les sons produits électriquement. Enfin, ça peut donner des choses très, très belles, mais moi, ça ne m'attire pas. J'aime bien le son acoustique, la fabrication du son. J'aime bien même les bruits périphériques, le bruit des clés. Donc c'est un vrai attachement, et pour tous les instruments.
Vous avez beaucoup écrit pour basson, pour viol de gambe.
J'ai beaucoup écrit pour basson, pour viol de gambe, j'écris pour tous les instruments, à vrai dire. Alors ça, c'est un peu le hasard des rencontres. Basson, j'ai beaucoup écrit pour lui parce que, grâce à Pascal Gallois qui m'a commandé plusieurs pièces, j'ai moins écrit pour hautbois parce que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer moins en tout cas de hautboïstes. Mais j'aime vraiment tous les instruments, y compris des instruments plus rares. J'ai écrit pour Vialarou, j'ai écrit pour Doudouk, qui est un instrument arménien, qui est un instrument magnifique. J'ai une commande pour une pièce pour cornemuse. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais ça ne me déplairait pas.
Vous avez créé une sorte d'avant-garde aujourd'hui autour de l'exploration des instruments.
Bon, ça, c'est un... Disons que autant mon langage harmonique est alors plus très éloigné de l'avant-garde, maintenant que j'ai fait ma révolution, ou ma contre-révolution, je ne sais pas. En revanche, cet aspect-là de l'écriture, de fouiller l'écriture instrumentale, de chercher des sons nouveaux, de ça, je l'ai toujours eu. Bon, ça dépend des moments, il ne faut pas faire non plus des catalogues d'effets où on fait entendre tout ce que peut faire un basson, tout ce que peut faire un hautbois. Ça fait 70 ans qu'il y a des œuvres comme ça qui ne font qu'additionner des sons un peu bizarroïdes. C'est pas intéressant, faut quand même construire quelque chose avec ça. Mais je suis toujours un peu à l'affût de tout ce qu'un instrumentiste peut me proposer. En fait, je travaille beaucoup avec eux. Je vais très souvent voir des instrumentistes, leur demander conseils, leur changer des choses selon leurs conseils. Ça fait vraiment partie du métier dans ce qu'il a de plus agréable.
Très souvent, vos œuvres ont pour point de départ un texte littéraire, un poème, un texte philosophique. Et vous avez mené de front les études musicales avec la fac de lettres. Alors, en quoi le texte est-il un moteur d'imagination, un déclencheur de l'imaginaire musical pour vous ?
Il n'y a pas que les textes d'ailleurs qui sont l'art en général, c'est souvent le déclic en fait. Ça peut être une peinture, ça peut être une... Alors un texte c'est plus direct, on voit plus l'influence qu'il peut avoir. Mais c'est vrai que j'ai toujours plus de mal à aborder une œuvre pure, disons, de la musique pure, abstraite. Ce qui m'est arrivé récemment avec un quatuor à cordes, mon cinquième... J'ai eu énormément de mal à entrer dedans parce que j'avais pas de support qui puisse déclencher l'imagination, l'imaginaire. Alors le texte est un formidable vecteur pour ça.
Donc, vous êtes un grand lecteur ?
Oui, pas autant que je voudrais parce que les journées sont brèves, mais oui, j'ai beaucoup lu, oui.
Et donc ce sont des points de départ.
Sont des points de départ, des étincelles,
des émotions.
Des émotions, et j'appréhende toujours un petit peu, je me dis, on se demande si on a le droit finalement de mettre de la musique sur des choses qui se défendent très bien, des œuvres qui se défendent très bien toutes seules. Mais j'essaye de passer outre. Alors c'est plus ou moins heureux finalement, en général je choisis mes textes. Quelquefois, j'ai beaucoup de mal, bien que ce soit moi qui l'ai choisi, à trouver vraiment un accord avec, qui me semble juste avec le texte. D'autres fois ça marche tout seul. C'est assez mystérieux.
Vous vous êtes beaucoup appuyé sur des poètes, par exemple Leopardi, Hölderlin, Rimbaud, Éluard. On sent que vous puisez dans toutes les cultures, dans toutes les langues.
J'ai une passion pour les romantiques allemands, bien que je ne parle pas allemand. Je comprends un peu, mais...
Vous les lisez en traduction?
Oui, bien sûr. Mais tout le monde a l'impression que je parle très bien allemand parce que je dois avoir écrit une vingtaine d'œuvres, alors que ce soit Hölderlin, Trakl beaucoup. J'ai une grande attirance, bon, qui n'est pas un romantique allemand, c'est plutôt un expressionniste autrichien. Mais c'est un poète... Je me sens très en affinité avec lui. C'est une poésie de la sensation, de la... Il y a quelque chose de très... qui déclenche tout de suite quelque chose chez moi, des images musicales, si on peut dire. Hölderlin est très difficile à mettre en musique, mais enfin, c'est sa langue qui est très difficile. Goethe également, Eichendorff, Novalis... J'ai vraiment beaucoup puisé dans cette époque que je trouve poétiquement absolument magnifique. Mais même Heiner Müller aussi, bon, qui est plus proche de nous.
Oui, et vous avez porté à la scène, vous avez aussi participé à des spectacles de théâtre.
Oui, c'est ça. Alors Heiner Müller, ça vient du travail que j'ai accompli à 3-4 reprises avec deux metteurs en scène, Jean Jourdeuil et Jean-François Perret, qui ont fait co-signer plusieurs spectacles dans les années 80. Là, maintenant, ils travaillent chacun de leur côté. Et Jourdeuil était un des traducteurs de Müller, probablement celui qui l'a vraiment fait découvrir en France. Donc, j'ai mis en musique un vaste poème de Müller qui s'appelle « Landschaft mit Argonauten ».«
Paysage avec Argonautes ».
Oui, qui a été présenté à Avignon au début des années 90. Ça, disons, c'est le pôle romantique allemand, enfin allemand en tout cas, et celui vers lequel je vais le plus spontanément. Mais j'ai une passion aussi pour la poésie extrême-orientale. Donc j'ai mis en musique plusieurs poèmes très anciens, poèmes chinois.
Et où est-ce que vous êtes allé les chercher?
Ben, ça, c'est un livre sur la poésie chinoise de François Cheng, où il donne des traductions que je trouve vraiment très belles de ses poésies du 7e, 8e siècle. Lipo, Li Bai, enfin, les noms divergent. Wang Wei.
Et pourquoi c'est cette poésie colle bien?
C'est des poèmes merveilleux. Mais je pense que si... Là aussi, c'est une poésie de sensation, d'image. Il y a quelque chose de... Et je trouve ça aussi chez Heiner Müller, en fait. Ça charrie des mots, ça charrie des images. Et je ne sais pas, ça... Quelque chose d'extrêmement... je dirais pas tactile, parce que ça n'a pas de sens de... Vous voyez ce que je veux dire? De sensuel, de...
Et de concis aussi.
Et je serais beaucoup moins, malgré... J'adore Valérie, mais je ne me vois pas mettre en musique un poème de Valérie. Et là, voilà, je suis toujours très pris. Et pour ça que les illuminations de Rimbaud aussi, bon, je l'ai mis en musique, un peu pour la même raison. Quelquefois, je ne sais pas exactement quel est le sens. D'ailleurs, on se creuse encore la tête sur certains poèmes des illuminations pour en comprendre le sens. Mais ça me dérange pas du tout.
Enfin, dire, oui, c'est le sens excède l'œuvre.
Voilà, et puis il y a beaucoup de textes religieux aussi, bien qu'étant agnostique. Mais là, c'est plutôt cet aspect, ces textes qui ont été utilisés tant de fois, enfin qui appartiennent à tout le monde en fait, qui appartiennent à l'humanité.
Et est-ce que quand vous écrivez de la musique religieuse, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacré qui se joue pour vous?
Oui, bien sûr. Bien sûr, qui n'est pas forcément religieux. Enfin, la spiritualité n'est pas forcément religieuse. Michel Onfray a parlé de ça. Mais il y a l'idée du dépassement de soi-même. Quoi. Quelque chose qui est un peu universel, unanimiste. C'est ce qui m'attire souvent dans ces poèmes, notamment les psaumes. Que j'ai mis plusieurs fois en musique.
Et vous avez aussi travaillé sur des textes médiévaux, le livre d'Aliénor.
Oui, alors ça, c'était une commande, en fait. Mais j'ai découvert à cette occasion un poème absolument extraordinaire du grand-père d'Aliénor d'Aquitaine, Guillaume d'Aquitaine ou Guillaume de Poitiers. et qui est un texte sur le néant, qui est un texte tout à fait étonnant, où il parle de rien, sur, pendant une douzaine de strophes. On ne sait pas s'il se fiche du monde, si... Loulipo a adoré ce texte, évidemment, c'est un peu eux qui l'ont fait redécouvrir.
Et... Ça veut dire quoi, il parle de rien?
Ah ben, il dit d'entrée, ça s'appelle « Chanson du pur néant », et il dit « Je parlerai de rien, je ne suis ni malade ni bien portant, ma bien-aimée, je ne sais pas si elle est belle, si elle est moche, ni quoi ni qu'est-ce, enfin c'est... »
Le pur acte d'écrire.
Le pur acte d'écrire, et c'est un texte tout à fait sidérant, et qui date du 12e. Il écrit, je crois qu'il nous reste une dizaine de poèmes de Guillaume d'Aquitaine, qui est un peu le père des troubadours. Mais il y a pas, c'est pas l'amour courtois là, c'est, je sais pas, c'est le plaisir de, oui, le plaisir d'écrire ouais. Sur rien. Mais il tient quand même 2 pages et demie sur ce rien.
On oscille toujours entre écrire sur rien, le vertige de la page blanche. Le motif qui sert de point de départ, on tourne autour du texte, son absence ou son déclencheur.
Alors je ne l'ai plus trop en tête là, parce que ça fait un moment que j'ai écrit cette pièce. Alors, et puis en plus je l'ai écrite dans la langue d'origine, en langue d'oc, qui est incompréhensible pour nous, hein, c'est vraiment une autre langue. Donc la traduction je ne l'ai plus trop en tête, mais... L'idée est vraiment ça. Chaque strophe développe un... C'est-à-dire, je ne suis ni ci, ni ça. Je ne suis ni bien ici, ni bien ailleurs. Je ne suis ni malade, ni bien portant. Ah oui, il dit que ce poème qu'il écrit, en fait, il l'avait rêvé en dormant sur son cheval. Une jolie idée.
Oui. Et vous avez beaucoup écrit pour les voix, parce que les textes, ils doivent être portés par des voix.
Oui. Oui, oui, bien sûr. Et plus pour chœur que pour voix seule, en fait. J'ai très peu écrit de ce qu'on appelle des leaders ou des mélodies. Par contre, j'ai un catalogue d'œuvres chorales, enfin pour chœur de chambre en tout cas, qui est vraiment assez important, peut-être une quarantaine. C'est aussi le hasard des commandes, hein, parce que tout n'est pas fait par volonté. Hein. C'est un petit peu comme les choses se présentent. Et c'est vrai que plusieurs chœurs m'ont demandé des œuvres vocales et je de plus en plus de plaisir à écrire sous cette forme, enfin, avec cet outil-là.
Nous aurons l'occasion de poursuivre sur cette évocation de votre œuvre chorale au cours des prochains entretiens. Merci beaucoup Philippe Hersant et à demain.
Merci Élise, à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Élise Gruau avec Philippe Hersant. À voix nue, réalisation Ghislaine David, prise de son Yann Frécy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.